On est de retour dans cette rencontre Jean d'ici et on entame la deuxième partie de cet entretien avec M. Michel Merlot. On va parler du volet politique de votre carrière. Quand est-ce que vous êtes devenu directeur général de Maniwaki qui donne en quelque sorte le coup d'envoi d'une longue carrière en administration municipale?
Printemps 83, le poste de directeur général de la ville de Maniwaki s'ouvre. Il s'était ouvert un an auparavant et je n'avais pas postulé. Et fait que là, j'ai dit, bon, ben là, écoute, là, je postule, puis je postule pour l'avoir, la poste. Alors là, j'ai dit, là, on va rencontrer du monde, puis on va faire aller nos contacts. Bon. Et finalement, on m'a donné le poste. À l'époque, c'était assez bizarre parce que le directeur général avait son bureau au deuxième étage de l'édifice. Fait qu'il n'était même pas intégré à son personnel. Mm-hmm. On avait engagé un directeur général parce que la loi disait qu'une ville, ça prenait un directeur général. Puis il avait eu le choix, d'après moi, à l'époque, il n'aurait jamais mm-hmm. engagé. Alors, c'était le maire Robert Gendron. Alors, j'ai commencé à travailler avec lui. Et ça n'a pas pris de temps que j'ai repris ma place. J'ai dit au maire qu'il n'avait pas besoin de bureau, fait que j'ai pris son bureau.
OK.
Bobby était bien d'accord avec ça. Alors là, j'ai été à Maniwaki pendant 5 ans et demi. J'ai eu des beaux dossiers, des dossiers plus difficiles aussi. Et un des dossiers les plus marquants, c'est la vente du complexe municipal où est située la cour actuellement. On perdait de l'argent, on perdait à ce moment-là une 50-60 000 $ par année à cause de la location qui n'était pas raisonnable. Avec le gouvernement du Québec pour mm-hmm. abriter des services du gouvernement du Québec. Oui. J'ai demandé au conseil s'il me donnait la permission d'engager des pourparlers pour vendre l'édifice au gouvernement, c'est-à-dire dire au gouvernement, vous occupez la majeure partie de l'édifice, mm-hmm. voulez-vous simplement reprendre l'édifice? C'était à l'époque, je pense que c'était le gouvernement libéral quand j'ai commencé à négocier, mais je l'ai fini avec le Parti québécois. Personne que j'ai rencontré m'a dit « Jamais, Michel, le gouvernement va acheter cet édifice-là. Écoute, c'est un bargain du siècle qu'on a avec le gouvernement du Québec. » Il ne coûtait rien. Bien beau, mais je dis, là, c'est Maniwaki qui paye pour. Alors, j'ai poursuivi mes négociations. Le Parti libéral a été défait. Le Parti québécois est rentré au pouvoir. Jocelyne Ouellette, qui était députée de Hull à ce moment-là, qui avait battu Oswald Parent par une seule voix.
Mmh. Quand on dit qu'une voix compte, c'est...
J'ai été extrêmement bien servi par le Parti québécois dans ce domaine-là. Elle a convaincu le responsable de la SIC, la Société immobilière du Québec, à ce moment-là, je pense, d'acheter l'édifice. Il y avait un comité de citoyens qui s'est formé pour finalement dénoncer cette vente-là, qu'on m'attribuait à moi, parce mm-hmm. que c'est moi qui avais convaincu le conseil de le vendre. Alors, on a demandé une enquête du ministère, et voilà qu'un bon matin, il y a un ami Latulippe qui débarque dans mon bureau. Il dit, je suis de la commission municipale et je m'en viens faire une enquête. Quand un enquêteur de la commission municipale débarque dans une ville, débarque dans le bureau du DG, d'abord, un, il y a de l'air bête. Deux, techniquement, tu es coupable jusqu'à temps que tu sois capable de prouver que tu ne l'es pas. Là. Mm-hmm. On a un penchant favorable aux citoyens qui demandent une enquête. Finalement, il y a eu l'enquête et finalement, M. Latulippe m'a dit ceci. C'est probablement la meilleure vente que la ville n'a pas faite depuis le début de son histoire. Puis probablement qu'elle n'en fera pas d'autres dans son histoire. Alors, j'étais quand même assez satisfait. Puis après quoi, un poste qui s'est ouvert à Buckingham. Alors, j'ai postulé pour devenir directeur général de la ville de Buckingham. Alors, j'y étais là 3 ans. Ça a bien été, j'ai eu du plaisir. C'est incroyable, le plaisir que j'ai eu là. Belle ville, des gens extrêmement aimables. Après quoi, j'ai postulé. Là, ça allait pas bien avec mon maire. Sur une base personnelle, ça allait très bien, mais comme gestionnaire, ça allait pas partout. Avec M. Scollin, à l'époque. Après quoi, il y a un poste qui s'est ouvert à Chambly. Alors là, j'ai un chasseur de tête qui m'appelle et qui me dit, « As-tu le Merlot, ça, qui a participé à l'UMQ, là, c'est un panel, là? » Je dis, « Oh, oui, c'est lui. C'est moi. » Et ben il dit, « Il y a deux postes ouverts en Montérégie, Saint-Julie et Chambly. » J'avais aucune espèce d'idée où était Saint-Julie. J'avais aucune espèce d'idée de ce qu'était Chambly. J'étais jamais allé dans ce coin-là. Alors, finalement, je suis allé voir ce que ça avait de l'air à Chambly. Et là, j'ai été 9 ans et demi à Chambly. Alors, j'ai été en gestion de crise pendant à peu près 3 ans. J'ai eu une crise de police où la Sûreté du Québec a envahi le poste de la Sûreté municipale chez nous suite à l'expérience de Chambly. Alors, pendant 18 jours, on n'avait pas de police, c'est la Sûreté du Québec qui occupait les locaux de la police. Alors, ils ont vraiment embarqué tout le monde. Ça a été difficile. Là. Moi, j'ai ramassé des gros policiers de 250 livres là, à petite cuillère à terre. Là. C'était pas comme évident. Là. Parce que tout le monde était considéré comme étant des ripoux. Ça a été une belle expérience. J'ai été chanceux d'avoir comme maire un ancien policier. Et comme adjointe, une ancienne secrétaire du poste de police. On formait un trio, alors ce qui nous a permis de passer à travers. Ça nous a permis d'affronter l'état-major de la Sûreté du Québec. Moi, j'ai dit au directeur général de la Sûreté du Québec, « By the way, demain matin, tu sors de Chambly, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. » Quand l'état-major est assis devant toi, ça a été une expérience assez le fun. Assez le fun, mais je me sentais soutenu pour le faire. On a eu 3 inondations de centenaires. Moi, je prenais la pôle encore, et là, c'est pas bien compliqué. Lors d'assemblée publique, j'ai été menacé de me faire tirer, de me faire arracher la tête, de me faire... Parce que quand ça allait mal, quand il y avait de mauvais messages à passer à la télévision, c'est moi qui allais. Puis quand ça allait bien, mais je disais à mon père, vas-y. Toi, tu te fais élire, moi, j'ai pas besoin de me faire élire, moi, j'ai été nommé. Fait que... Et ça a été une expérience assez traumatisante aussi. Après quoi, il y a eu le Verdelon. Chambly faisait pas état à l'intérieur du triangle. Mm-hmm. Ça a été une belle expérience. Okay. Parce qu'on était préparés. Ça, j'incite les gens qui sont dans les municipalités de bien se préparer. Être capable de bien gérer un sinistre. Alors ça a été une grosse expérience. Encore là, j'ai été extrêmement chanceux d'être bien soutenu par mon conseil. Ça a bien été. Après quoi, je m'occupais beaucoup de développement économique. J'étais en contact beaucoup avec les gens de Montréal International, entre autres. J'ai toujours cru, et ça, un de ceux qui m'avait inculqué ça, c'est O'Neill Le Grondin, qui m'avait dit, il y avait un prof de McGill aussi qui m'avait dit, « Compare-toi jamais à plus bas, à plus faible que toi. Compare-toi tout le temps à meilleur que toi. » Alors moi, j'avais mis dans la tête à mon maire de devenir membre de Montréal International. J'avais accepté une invitation de siéger sur des comités métropolitains. Alors finalement, ce qui est arrivé, c'est que le vice-président de Montréal International m'appelle une journée et me dit, « Michel, serais-tu intéressé à faire du développement économique? On a besoin de quelqu'un pour s'occuper des filiales internationales sur le territoire de la communauté métropolitaine. On a besoin de quelqu'un pour s'occuper des organismes de développement économique sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. » Et là, je suis allé directeur de développement, filiale et partenaire locaux à Montréal International. Écoute, ça a été merveilleux, une belle équipe. Fait que là, je reçois un appel. À ce moment-là, j'étais à suivre une formation. J'étais à San Diego. C'est Massimo qui me dit, écoute, j'ouvre le poste de coordonnateur au développement économique du Grand Montréal. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, j'ai accepté de postuler. Bon, je suis passé à travers tous les tests possibles et imaginables. Et finalement, on m'a donné le poste. Alors, j'ai été coordonnateur de développement économique du Grand Montréal, c'est-à-dire qui couvrait 87 municipalités. Ce que j'ai réussi à faire, c'est avec une équipe. Naturellement, j'avais 2 économistes qui travaillaient pour moi. Et on a fait des consultants. Là. Il y avait des consultants, il y en avait en masse, des consultants. Et on a fait le diagnostic du développement économique du Grand Montréal. Ça a été super le fun, super intéressant. Après quoi est apparue l'espèce d'obsession de diffusion dans la région de Montréal. Alors là, c'est sûr que ce que moi je pouvais faire en termes de développement économique, là, il n'y a pas bien de monde qui m'écoutait. Là, c'est comme prêcher dans le désert. Là. Et il y a un chasseur de tête qui m'appelle, puis qui me pose tout le temps, il pose tout le temps la même question. Connais-tu quelqu'un qui serait intéressé à aller à la direction générale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Et je lui ai répondu, j'en connais au moins un. Et oui, qui? Moi. J'ai passé, j'ai rencontré le maire, passé tous les tests. Là. Et finalement, j'ai été nommé directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus facile à gérer Saint-Jean-sur-Richelieu, à certains égards, bien sûr, que gérer la ville de Maniwaki. Là. Parce que Maniwaki, tu ne fais pas le ménage. À ce moment-là, tu ne faisais pas le ménage à peu près tout. Là. Non, tu n'as pas si pire que ça. Oh,
oui,
là.
Mais
quand même.
Une multitâche. Ouais. Et justement, M. Merlot, oui. Vous avez eu un parcours incroyable. Et là, dans l'histoire, à un moment donné, vous faites un retour chez vous pour devenir préfet de la MRC.
Oui.
J'aimerais qu'on touche à ça, si vous permettez, parce que, évidemment, le temps nous presse un petit peu. Oui. Mais j'aimerais qu'on touche à comment vous avez fait votre retour dans la région.
Bon, alors, Saint-Jean, j'avais dit que j'étais là 5 ans. J'étais là 5 ans. Et là, j'ai décidé de partir à mon compte comme consultant. Là aussi, j'ai eu du plaisir à travers le Québec. J'ai eu de très, très beaux contrats. Et alors, la préfecture s'ouvre. Je rencontre le maire de Messines, M. Cross, quand il ouvre l'hôtel, M. Martineau. Fait que je m'en vais le voir, puis il dit, « Mais Merlot, il y a un poste qui vient d'ouvrir, là. » Je dis, « Quoi? C'est quoi le poste? » Mais il dit, « Rondeau a dit qu'il ne se représentait plus. Il voulait laisser la préfecture. » Fait que finalement, je décide de me présenter. Et je m'en vais à l'élection. Je l'ai eu, mais par la peau des fesses, là. J'avais un très gros adversaire qui était M. Blanchard de Lac-Sainte-Marie. Yvon Blanchard. Ça a été une campagne absolument fabuleuse. Et même à l'occasion, on a voyagé ensemble. Là, fait qu'on ne saillissait pas. Là. Même que j'ai dit à Yvon, probablement que si tu avais décidé de te présenter avant moi, probablement que je ne me serais pas présenté. Je m'étais dit que j'allais être préfet et que je faisais un terme seulement. Ça, c'est une erreur. Un terme, 4 ans, c'est difficile de vraiment réaliser quelque chose. J'ai traversé la période d'hostilité. Alors, j'ai passé plus de la moitié de mon temps sur la scène régionale à gérer l'hostilité puis les problèmes qu'on commençait à avoir en santé avec la réforme. Ça a été une expérience super le fun. C'est une des belles expériences de ma vie. Mais j'ai été chanceux, mais chanceux. J'avais un conseil en or, des gens merveilleux autour de moi, qui, eux aussi, il y en a plusieurs d'entre eux n'ont fait qu'un terme. Mais je pouvais compter sur des gens comme Gaétan Guindon, M. Cross aussi, MSN. C'était des gens sur lesquels on pouvait vraiment, vraiment, vraiment compter. M. Major aussi, qui était à Ouchette. Alors, ça a été une belle expérience. Je n'ai pas réalisé tout ce que je voulais réaliser, bien sûr.
Et en terminant, bon, on pourrait également parler, sauter de journaliste à la politique, c'est tout un parcours. Là, sauter de la politique à un verger, ça aussi, c'est tout un parcours. Si on prend toutes les réalisations que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot comme vraiment votre plus grande fierté?
Oh mon Dieu, la plus grande fierté? La naissance de mon fils. La création du verger est un soin un peu spécial. Pour la bonne et simple raison qu'au départ, même au ministère de l'Agriculture, à l'époque, au MAPAC, on ne croyait pas qu'on était capable d'avoir un verger de pommes dans la vallée. Ça, on a réussi à le faire. On a réussi aussi à prouver qu'on était capable d'avoir un produit qui se distingue. C'est-à-dire, là, je parle du cidre, par exemple. Alors, à partir du cidre régulier, aller jusqu'au cidre de glace. Et alors ça, c'est, on a vraiment réussi à avoir un bon produit, un produit qui se compare à n'importe quel produit au Québec, au Canada. Et ça, c'est une assez grande fierté. Puis là, on va continuer. Naturellement, à l'âge que j'ai, je ne me considère pas très, très vieux. Mais non, on vieillit une année à la fois, comme tout le monde. C'est sûr que mon fils va éventuellement prendre une certaine relève. Par contre, étant avocat et pratiquant à Montréal actuellement, la relève va se faire à travers un autre modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder pour modifier notre modèle d'affaires pour avoir quelqu'un de permanent qu'on serait capable de payer pour maintenir les opérations.
Eh bien, M. Merlot, c'est tout un parcours. On le savait, mais on n'est pas surpris. On n'a pas eu le temps, justement, de parler beaucoup de votre vie personnelle, mais j'imagine que vous avez dû avoir quelqu'un près de vous qui vous a vraiment appuyé dans toutes ces pérégrinations-là.
Exactement.
Elles furent nombreuses.
Il y a des gens qui croyaient, particulièrement la mère à Julien, là, bon, me disait tout le temps, écoute, laisse faire tes jobs, là. Va-t'en à ton compte. Elle avait foi en moi. Et puis ça m'a beaucoup aidé.
Merci beaucoup de ce témoignage. Puis on vous souhaite vraiment beaucoup de santé puis une très, très, très longue vie.
Bien, merci beaucoup.
Pareil pour le verger.
Merci.
Merci.